Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé aux médias de décompter les interventions d'Éric Zemmour. Faut-il décompter le temps de parole d'Éric Zemmour? C'est une question que nous posons. Nous sommes avec David. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Qu'en pensez-vous?
Je trouve ça tout bonnement scandaleux. On a un CSA qui s'arroge d'un droit qui n'est pas le sien et qui menace ouvertement la liberté d'expression.
On va en parler dans une seconde. Le CSA qui a créé un statut uniquement pour Éric Zemmour, celui de pré-candidat. Amandine, le rappel des titres.
Et à la une, Agnès Buzyn, entendue devant la Cour de justice de la République. L'ancienne ministre de la Santé est auditionnée depuis 9h ce matin. Première ministre priée de s'expliquer sur la gestion de la crise du Covid. Elle pourrait, c'est une possibilité en tout cas, être mise à l'écart en examen à l'issue de cette audition. À Pamiers, en Ariège, les 15 000 habitants peuvent à nouveau circuler librement. Les mesures de confinement prises ce matin après un incendie dans une usine de métallurgie ont été levées. Et puis après l'hommage national, celui de ses proches, obsèques ce matin de Jean-Paul Belmondo. La cérémonie organisée en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris vient de s'achever. Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, cérémonie qui s'est terminée il y a un peu moins de 10 minutes maintenant. C'était le seul moment de toute la matinée, depuis peut-être à les 8 heures du matin, depuis les premiers arrivants, qu'il n'y avait plus ce silence un peu pesant de ces fans, de tous ces amoureux de Jean-Paul Belmondo qui s'étaient recueillis ici. Et au moment justement de cette fin de cérémonie, c'est la fin de ces obsèques, quand le cercueil de Jean-Paul Belmondo a descendu les deux petites marches, eh bien il y a eu commencé à avoir une foule qui a applaudi tous ensemble. Mais simplement des applaudissements, pas forcément de cris, juste pour applaudir cet homme qui les a accompagnés toute sa vie, toute leur vie en fait, et qui les aimait. C'est comme ça que les gens prennent ce qui s'est passé avec Jean-Paul Belmondo pendant plus de 60 ans de carrière, et notamment Tiffany, qui était là hier aux Invalides, qui était dans la cour des Invalides, qui est ensuite allée se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo, et qui se devait d'être là aujourd'hui.
Je me devais bien d'être là aujourd'hui, c'est le minimum. Il m'a apporté tellement d'émotions, il m'a fait rire, il m'a fait sourire, il m'a fait pleurer. Aujourd'hui j'ai 39 ans, depuis toute petite je le regarde. Alors j'ai commencé par des films comme L'As des As, j'aurais rêvé d'être Rachid Ferrache à l'époque. Après j'ai regardé Un singe en hiver, ça c'est quand on grandit, on comprend plus de choses. Il a touché toutes les générations. Moi mes enfants ont 7 ans aujourd'hui, ils regardent les films de Jean-Paul Belmondo. Et ils adorent, ils veulent être cascadeurs, donc je crois que je suis mal barrée.
Voilà, la dépouille de Jean-Paul Belmondo qui n'a pas encore quitté la petite place qu'il y a devant cette église de Saint-Germain-des-Prés. Jean-Paul Belmondo qui est accompagné en ce moment donc par toutes ces centaines de personnes qui sont venues l'applaudir aujourd'hui. Et puis tous ses amis, ses proches, sa famille qui sont derrière lui en ce moment, qui se recueillent, qui discutent entre eux et qui se remémorent sans doute un petit peu des films, des répliques, des scènes cultes. Du magnifique.
Merci beaucoup Vincent Serrano, et on rappelle à une présence remarquée, celle d'Alain Delon, qui assistait donc à cette cérémonie. On l'a vu arriver, une béquille à la main, debout, marchant, soutenu certes par son fils. C'était sa première apparition depuis public, en tout cas depuis son AVC. Petit coup d'œil à notre météo, Claire.
Image très émouvante d'Alain Delon qui est en train de rejoindre sa voiture qui est garée sur le parvis de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Il est effectivement avec Anthony Delon, son fils, et tous les deux, ils ont partagé ce moment d'émotion.
En tout cas, il faudra composer avec de nombreuses averses pour l'ensemble des régions. Ça sera beaucoup plus encombré encore de la région Grand Est au Languedoc, en passant par la Corse et la région PACA, où les cumuls seront beaucoup plus conséquents, avec encore un risque d'orage qui sera d'ailleurs localisé ailleurs. Mais pour le soleil, eh bien, il reviendra progressivement dans l'après-midi par toute la façade atlantique qui, elles, justement, pourront profiter de belles éclaircies. Pour les températures, elles sont en légère baisse sous les orages, donc comprises entre 21 et 29 degrés, donc 21 à Brest, 29 à Ajaccio, en passant par Paris, 24 degrés, 23 à Grenoble, 24 également à Bordeaux et 26 degrés à Montpellier.
Et ce week-end, c'est beaucoup mieux.
Oui, exactement. Alors, on aura pareil du beau soleil, que ce soit pour l'après-midi de samedi ou dimanche, mais après la dissipation lente des brumes et brouillards qui seront quand même assez persistantes en matinée. Les températures vont légèrement fraîchir en matinée, puis ensuite augmenter au fil des heures dans l'après-midi.
Merci beaucoup, Claire.
Merci Amandine, on vous retrouve ce soir.
Merci à vous.
Oui, ce soir, 19h15, ils refont la France, on décrypte l'actualité avec les correspondants de la presse étrangère.
Il est 13h04.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Le 8 septembre, c'était donc avant-hier, le CSA a demandé aux médias audiovisuels de décompter les interventions de Éric Zemmour portant sur le débat politique national. Alors je vous lis le communiqué. Le CSA rappelle que les dispositions de la loi du 30 septembre 86 prévoient la prise en compte des interventions de personnalités politiques. Au regard des récents développements, le CSA a considéré que M. Zemmour pouvait être regardé dorénavant tant par ses prises de position et ses actions que par les commentaires auxquels elle donne lieu comme un acteur de débat politique national. Alors évidemment, c'est large parce que tout éditorialiste peut devenir demain un acteur du débat politique national. Et j'ai dit tout à l'heure que le CSA a créé une sorte de statut uniquement pour Éric Zemmour de pré-candidat. Parce que je rappelle qu'il n'est toujours pas candidat. Il le sera peut-être. C'est un candidat putatif. Tout cela est possible, mais il ne l'est pas. Voilà les termes du débat. Et c'est maintenant à vous, chers auditeurs, si j'ose dire, de donner votre avis. David, qui est étudiant à Sciences Po à Aix-en-Provence, qu'en pensez-vous ?
Écoutez, j'entends bien votre point de vue en disant que c'est vraiment un cadre exceptionnel pour Éric Zemmour. Et je trouve ça tout bonnement scandaleux. C'est Kant qui nous le rappelait avec l'héritage des Lumières. Les lois sont supposées être universelles et créer un cadre exceptionnel pour un individu spécifique. Je trouve ça scandaleux. Voilà, le CSA qui est censé être une autorité administrative indépendante. Elle est administrative, certes, mais elle est loin d'être indépendante. Qui est nommé président du CSA ? Par qui est nommé le président du CSA ? Bah, par le président de la République. Et je pense que si Éric Zemmour aujourd'hui a son temps de parole qui est décompté, bah, c'est uniquement parce que c'est un personnage qui gêne, dont l'opinion...
Bah c'est ce qu'il a dit en tout cas, puisque lui a accusé le gouvernement et La République En Marche et en filigrane Emmanuel Macron de le faire taire. C'est en tout cas bien sa sûr. Défense.
Bien sûr. Mais,
de
mais
vouloir
moi,
le pense, faire taire, pardon.
Mais je pense qu'il a raison, Pascal, vous en faites les frais vous aussi.
Oui, enfin, il est présent, il sera présent demain sur France 2, il viendra sur RTL mardi soir, il est présent tous les soirs sur CNews. Il n'est pas bâillonné, Éric Zemmour. Il a une liberté de parole.
Mais on voit bien que ses prises de position gênent. Et que si c'était possible de le faire taire, on essaierait de le faire taire au maximum. Et là, on voit bien que, voilà, dans un cadre de l'année 2022, ça fait peur au système en place, ça fait peur au gouvernement, ça fait peur à l'opposition. Et on essaye, avant même le lancement de la campagne, sachant que tous les autres candidats, on n'a pas encore commencé leur temps de décompte.
D'autant plus évidemment, il n'y a pas de candidat. C'est ça qui est tout à fait paradoxal. Aucun candidat pour le moment. La campagne électorale n'a pas commencé. C'est mardi matin qu'il sera là à 7h40 avec Alba Ventura. D'ailleurs, ce sera passionnant, j'imagine, de l'écouter.
Oui. David ? D'autant plus qu'une dernière chose, Pascal. Normalement, quand on décompte le temps de parole, c'est au nom d'un parti politique. Si Jean-Luc Mélenchon fait la promotion de sa campagne, de ses idées, c'est au nom du parti LFI. Si c'est ses intervenants...
Ben là, il est classé chez les divers droites. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas non plus classé dans le camp dit national.
Et oui, mais Éric Zemmour, sur CNews, c'est son métier. Il est journaliste. Il vient pas, il n'est pas invité pour défendre des idées.
Il est journaliste, non. Il est aussi journaliste. Mais il est éditorialiste, intellectuel. Comment dire, de ce point de vue-là, c'est pas un journaliste qui témoigne d'une réalité. C'est un éditorialiste qui donne son avis, un intellectuel qui fait part, qui entre dans le débat politique.
Bien sûr, mais tout le monde entre dans le débat politique. Sur France Inter, ils entrent aussi dans le débat politique.
Alors, je suis d'accord avec vous. Tout le monde fait de la politique, même ceux qui disent qu'ils n'en font pas.
Surtout ceux qui disent qu'ils n'en font pas, je dirais même.
Bon, ben c'est intéressant. Mais vous êtes jeune, dites donc, David. Vous avez 20 ans, vous êtes très...
Et oui, mais révolté surtout.
Ben, révolté, mais en tout cas très mûr sur ces questions-là, manifestement. Vous êtes à Sciences Po, Aix-en-Provence ?
C'est ça, oui. Mais quand on étudie le droit constitutionnel, la supposée neutralité de certains organismes publics, bah ça nous embête et ça nous ennuie de voir que l'application réelle est enclenchée et catalysée pour des fins politiques et purement politiciennes.
Quelle est la tendance politique dans un amphi aujourd'hui à Sciences Po Aix ?
Bah, que ce soit au niveau des professeurs, pas tous bien sûr, mais dans certaines matières, que ce soit la science politique ou la culture générale, on a quand même un environnement plutôt de gauche, pour ne pas dire gauchisant de façon péjorative. Et globalement, à Sciences Po, ce qui est difficile, c'est de faire régner une libre expression de son opinion. Une libre expression de son opinion. Et ça, c'est très difficile. Je connais beaucoup de gens à Sciences Po qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont peur d'être exclus, parce qu'ils ont peur d'être traités de droite, de facho, de nazi et plus. Nazi peut-être pas, mais parfois ça va jusque-là. Donc si vous voulez, on est dans cette doxa, dans cette bien-pensance qui fait que certains étudiants n'osent pas parler. Et moi, j'en fais les frais. Voilà, j'ai coutume de dire aujourd'hui que la liberté d'expression dans le milieu universitaire a un coût social. Et en fac de droit, c'est pas le cas. C'est le cas à Sciences Po, voilà.
Merci, David. Évidemment, je ne peux pas vérifier ce que vous dites. Hein. C'est votre témoignage et il n'engage que vous, comme dit l'autre. C'est le principe des auditeurs. Il est 13h10. Je salue Damien Béchiot. Nous sommes vendredi. On a un œil, évidemment, sur Saint-Germain-des-Prés parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Cédric Clapiche, que j'aperçois. Gilles Jacob, elle était là il y a quelques instants. Francis Huster, Jean Dujardin, Norbert Saada, qui est un producteur historique du cinéma français. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Claire. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il décanter le temps de parole d'Éric Zemmour ? Est-il victime de censure ? C'est le sujet qui vous intéresse ce midi au Standard. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé aux médias de décompter les interventions. Il considère le polémiste comme un acteur du débat politique national. David a été le premier à réagir dans l'émission.
Je trouve ça tout bonnement scandaleux. On a un CSA qui s'arroge d'un droit qui n'est pas le sien et qui menace ouvertement la liberté d'expression.
Éric Zemmour a accusé hier soir le gouvernement d'avoir exercé une pression sur le CSA.
Là, aujourd'hui, les politiques sont tellement lâches qu'ils se cachent derrière un organisme soi-disant indépendant qui n'est absolument pas indépendant et qui est soumis, vous l'avez dit vous-même, à toutes les pressions de qui ? De gens d'En Marche. En Marche, c'est qui ? C'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est qui ? C'est Emmanuel Macron.
Vous accusez ?
Mais bien sûr que j'accuse.
Sans preuve, c'est pas...
Mais bien sûr que j'accuse sans preuve. J'accuse ces gens de vouloir me faire taire.
Éric Zemmour, hier soir, chez nos confrères de CNews, le polémiste dérange-t-il ? Faut-il décompter son temps de parole alors qu'il n'a pas déclaré qu'il était candidat à l'élection présidentielle ? 32-10.
Et vous entendiez évidemment la voix de Christine Kelly qui menait l'interview hier soir avec Éric Zemmour. Nous sommes avec Pauline qui est étudiante à Clermont-Ferrand. Bonjour, c'est bien d'avoir des étudiants pour commencer cette émission. David avait 20 ans, Pauline, vous avez 19 ans.
Bonjour Pascal.
Bonjour et merci d'être avec nous.
Ben merci de m'avoir rappelé. alors c'est toujours un plaisir de passer après David parce que c'est la deuxième fois que j'interviens après lui et c'est toujours très très éclairant de passer après lui. D'autant plus que je partage plus ou moins son avis aujourd'hui. Dans le sens où effectivement on a un personnage qui est un journaliste, éditorialiste, etc. Mais quand même... Je pense qu'on peut qualifier aujourd'hui Éric Zemmour de personnage politique, entre guillemets, puisque c'est pas nouveau. Il a toujours été très emprunt politique, il a toujours effectivement fait partie du débat national. Après, aujourd'hui, comme l'a rappelé David, créer un statut de pré-candidat, je veux dire, il n'y a plus de fin si on part dans ce sens, de faire des suppositions, de s'arroger le droit de limiter le temps de parole d'un citoyen pour l'instant lambda, j'ai envie de dire, qui n'est candidat de manière qu'officieuse, si on peut se permettre. Donc, je ne suis pas spécialement d'accord avec cette création d'un statut spécifique pour Éric Zemmour, même si dans le débat national, effectivement, c'est un personnage spécifique depuis plusieurs années qui s'exprime à l'antenne. Mais on ne peut pas, effectivement, lui interdire de s'exprimer librement ou du moins lui poser une contrainte qui lui spécifique, puisque c'est un statut qui lui a été créé spécifiquement, sans effectivement...
Ben c'est ça qui est étonnant. C'est un statut qui n'existe pas, le statut du pré-candidat. Ça n'existe pas.
Voilà, exactement.
Donc,
il y a une entrave, effectivement, à ce moment-là. Après, est-ce que dire que c'est un coup de En Marche, un coup du président pour lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Peut-être le jeu politique est un jeu, j'ai envie de dire, sans vraies règles, et ça s'est vu dans le passé déjà, il n'y a pas de règles. Ce n'est pas la première personne à faire les frais d'un choix, entre guillemets. Je prends l'exemple de Rachel Guinguido, qui il y a quelques années a dû quitter le Parti des Insoumis pour pouvoir poursuivre son activité de journaliste. Après, ce qui est effectivement étonnant, c'est qu'aujourd'hui, Éric Zemmour n'est ni candidat, ni membre d'un parti. Et d'une étiquette, comme vous l'avez dit, on l'a placé divers droite, mais officiellement, il n'a pas de parti, que ce soit son nom. Donc, décompter le temps de qui, au final ?
Et puis, alors, on peut réfléchir également sur ce qu'est aujourd'hui la télévision. Il y a 300 chaînes. Donc, c'est pas le RTF qui donnait une seule voix, un seul avis, une seule opinion. Si vous n'aimez pas Éric Zemmour ou si vous n'aimez pas Téléditorialiste, vous pouvez toujours changer de chaîne. D'imaginer que parce que M. Zemmour est sur une chaîne ou sur une autre, ça peut influencer l'opinion publique. Franchement, je crois que tout ça, et ce sont des débats d'un autre temps, me semble-t-il. Merci en tout cas, Pauline.
Merci à vous.
Merci à vous. On est avec Cédric, chef d'entreprise à Bourg-en-Bresse.
Ouais,
bravo, Pascal.
Bonjour. Ah ben non, mais j'ai un esprit lent, mais il me faut du temps. Et là, j'ai compris qu'on disait...
que jamais, Pascal.
Exactement. J'ai compris qu'on disait Bourg-en-Bresse et non pas Bourg-en-Bresse. Bon.
Bah, bravo.
Qu'en pensez-vous de cette décision du CSA. Et je rappelle également que Roselyne Bachelot avait dit le 30 août, c'est pas très vieux, que Éric Zemmour pouvait continuer son travail d'éditorialiste et qu'il était absolument hors de question de le placer dans la vie politique ou de le décompter. Ce qu'avait dit d'ailleurs le président du CSA dans une interview au Figaro en janvier dernier.
Elle a raison, en fait. Elle a raison. Alors, aujourd'hui, je suis un peu d'accord avec les deux intervenants, pas surtout, mais les deux intervenants précédent. Temps de parole, c'est un découpage particulièrement complexe pour le CSA, parce qu'il y a des interventions politiques sur des sujets non liés aux élections qui sont mentionnés dans le décompte classique et annuel. Ça ne peut pas être le cas d'Éric Zemmour, parce qu'il ne fait pas partie d'un parti politique. Par ailleurs, après, il y a aussi les interventions politiques liées aux élections qui sont comptabilisées dans une colonne débat national. C'est le même principe. Il n'est pas candidat. Il n'a jamais dit qu'il était candidat. Moi, ce qui me choque dans tout ça...
Il y a une petite zone possible, en tout cas. Il ne faut pas être non plus naïf, Cédric.
Non, mais il y a une zone possible. Ça, on est d'accord. Et Éric Zemmour, c'est un débatteur hors pair. Il est suffisamment intelligent pour savoir avec quelle ligne il joue et quelle ligne pas franchir. Ça, il le sait très bien. Maintenant, je suis loin de partager ses idées, mais aujourd'hui, c'est un éditorialiste politique. Il a clairement choisi son camp, mais d'autres l'ont fait. Christophe Barbier, il est plutôt macroniste. Yves Tréhard, il est plutôt la droite libérale. Laurent Geoffrin, il défend la gauche depuis 30 ans. C'est des éditorialistes politiques. Pourquoi ces gens-là ne décompteraient pas leur voix non plus?
Non, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites. Et les gens que vous avez choisis, c'est très intéressant. Vraiment, je vous félicite pour la pertinence de ces arguments.
Il y a aussi Bruno Jeudy qui passe à la télé. Je veux dire, c'est des gens qui...
Mais Bruno Jeudy, vous le mettez sous quelle étiquette?
Ah, plus libéral, peut-être. Ouais, c'est de plus droite libérale, mais bon. Après, voilà, ça, c'est un avis personnel. Mais Bigard, c'est pareil. Quand il intervient, il prend position.
Ah oui, quoi, Bigard, c'est pas la même chose. Je mets pas Bigard et Barbier sur le même niveau, pardonnez-moi.
Là, on est d'accord.
Il y en a un qui est plus drôle que l'autre, je dirais pas qui.
je suis d'accord. Comment ? Non, mais je veux dire, à un moment, il faut... Je pense que... Alors, j'aime pas du tout employer ce mot, parce qu'il a employé à tort et à travers ces derniers temps, mais à partir du moment où on va décompter le temps de parole d'un éditorialiste ou d'un journaliste, là, pour le coup, on peut peut-être parler de dictature.
Non, voilà. Dictature non plus, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, il y a une volonté de... Dictature, le mot est un peu fort.
Non, justement,
trop fort.
Je le mets bien entre guillemets,
oui.
C'est parce que du coup, on va empêcher de parler quelqu'un, et c'est ça qui me dérange. Et Emmanuel Macron a dit, il est cité dans le livre de Philippe Besson, un personnage de roman, il a dit, il y a des éditorialistes qui sont à la déontologie, ce qu'est Mère Teresa était au stup. Ils me donnent des leçons de morale alors qu'ils sont tous dans le copinage et le coquinage depuis des années. Et je pense qu'il a raison. Et je pense que Éric Zemmour doit certainement faire peur à Emmanuel Macron, parce que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui pourrait faire gagner la droite, c'est peut-être Éric Zemmour. Et ça doit lui faire poser des questions.
Ben voilà. Merci Cédric, merci beaucoup. Vous pourrez réagir, il y a d'autres sujets aujourd'hui évidemment, et notamment Agnès Buzyn, ça c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il faut poursuivre les ministres? Ça c'est vraiment un sujet capital, me semble-t-il. Abdeslam, est-ce qu'il faut le faire taire? Et puis, si vous voulez revenir sur la cérémonie d'hier, si vous avez été particulièrement ému, si, comme moi, et je le dis vraiment parce que c'est la vérité, moi j'ai pleuré sur la musique du professionnel, j'avais les larmes aux yeux lorsque le cercueil de Jean-Paul Belmondo a quitté... a quitté les Invalides hier et que je voyais tous ces visages, sa famille, mais également les comédiens, les anonymes et tout le monde partageant cette même émotion. Je trouvais que c'était un moment vraiment très, très rare, même d'union, j'ai envie de dire, où tous les Français peuvent se retrouver. à travers un homme qu'ils ont aimé, un seigneur, un prince qu'ils ont aimé. Donc si vous avez été très touché, bah, appelez-nous au 3210. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur Fer.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Dans quelques minutes, vous pourrez réagir au procès des attentats du 13 novembre 2015. Faut-il faire taire Salah Abdeslam ? Le seul membre encore en vie des commandos a de nouveau pris la parole pour dédouaner trois de ses co-accusés. Je ne cautionne pas votre justice, ce sont ses mots hier. Une nouvelle provocation. Au premier jour du procès, il avait estimé que les accusés étaient traités comme des chiens. Samia Maktouf est l'avocate de plusieurs parties civiles et elle était votre invitée dans RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Nous sommes dans une démocratie. Le respect du droit de la défense doit être respecté. Il est en train d'offusquer, de choquer, de s'attaquer. Ses propos, c'est une attaque directe aux victimes. Mais nous faisons tous confiance au président de cette cour qui, jusque-là, mène les audiences magistralement. La défense et les accusés ont le droit de s'exprimer et le dernier mot leur appartient. Mais il ne parlera pas pour dire la vérité parce qu'il ne reconnaît pas cette cour d'assises, il ne reconnaît pas notre droit, il ne nous reconnaît pas non plus.
Est-on en train d'accorder une tribune à Salah Abdeslam? 3210, 3210.
Ça va être un sujet évidemment qu'on abordera tout à l'heure. Nadia est là. Bonjour Nadia, et ce serait bien évidemment d'avoir un avis différent sur Éric Zemmour des deux ou trois premiers que nous avons entendus.
Oui, bonjour. Juste pour faire un petit pas de côté, je voulais dire que par rapport à M. Abdeslam et toute la cellule du 13 novembre, je voulais dire que tous ces gens étaient d'origine berbère. Hein. Parce qu'on dit arabe, en fait, les arabes, en France, c'est pas des vrais arabes. C'est tous des berbères hein, dont on parle. Et qu'ils étaient venus de la Belgique pour commettre un attentat.
Et quelle différence faites-vous, précisément? Qu'est-ce que ça change, si j'ose dire, pour vous?
Ben, parce qu'on dit toujours arabe, arabe, arabe. Non, c'est pas des vrais arabes.
Les berbères sont pas des vrais arabes, c'est ce que vous dites.
Bah non, c'est pas des vrais arabes. C'est comme les Égyptiens, c'est pas des vrais arabes non plus. Mm. Parce que leurs origines, elles sont africaines, noires, et gréco-macédoniennes. Bah, c'est vrai, il faut faire un peu d'histoire, hein, vous savez.
Et vous,
lui qui aime tellement l'histoire, nous explique tout ça. Parce qu'on dit qu'il est si intelligent, etc. Mais en fait, lui, il parle beaucoup des Arabes. Bon, voilà, pour en venir à M. Zemmour, c'est... en fait, si on lui coupe son oxygène, il n'a plus rien, quoi. Parce qu'il nous parle... Quel est le sujet de Zemmour? C'est son anti-islam à longueur de temps. Ça fait des années, donc, que c'est vraiment son carburant. Après ça, il y a les immigrés, évidemment. C'est responsable de tout, hein, selon lui. De tout. Je voulais dire si, par exemple, on faisait la réémigration, est-ce que la France serait mieux? Elle se porterait mieux? Parce qu'avant 1945, il n'y avait pas tous ces immigrés, ou très peu. Il y avait très peu de musulmans en France. Et bien pourtant, la France, elle n'était pas si apaisée que ça. Donc, il nous dit que les musulmans sont énormes en France. Il y en a beaucoup, ils vont prendre le pouvoir. Je voulais seulement rappeler que les musulmans, c'est pas une race. Donc, vous pouvez être né de parents musulmans et puis au fur et à mesure dans votre vie, changer. Ne plus être musulman. Mmh. Vous avez le droit de l'être. Mmh. Moi, j'ai des amis musulmans autour de moi. Ils m'expliquent que si la personne au fond d'elle-même ne se considère plus comme musulmane, elle ne l'est plus. Mmh.
En fait,
leur Dieu, elle ne l'est plus.
Alors,
je voulais aussi dire pourquoi est-ce que tous les journalistes défendent autant M. Zemmour?
Vous trouvez que les journalistes le défendent? Parce que moi, je n'ai pas ce sentiment, par exemple.
Ah oui.
Vous trouvez que les rédactions défendent...
Ah oui, le mettre en avant, c'est fou. Et puis cette victimisation, ce n'est pas très glorieux pour M. Zemmour.
Mais vous trouvez, par exemple, puisque nous parlons d'RTL, que sur RTL, vous trouvez que la rédaction met en avant Éric Zemmour?
Ah oui, beaucoup. Mmh. Ah oui, oui.
C'est étrange, parce que je pense que la rédaction qui m'entend, elle ne doit pas avoir ce sentiment.
Mais pourquoi? Non, mais il n'y a rien. Moi, je veux dire, dans ce que je dis, il n'y a rien de mal. C'est une constatation, tout simplement.
Une rédaction n'a pas à rouler pour des idées ou à rouler pour un candidat ou a priori. Elle doit respecter une forme de neutralité.
Même les médias.
Surtout une rédaction comme celle d'RTL. Ce qu'elle fait d'ailleurs au quotidien.
Même vos concurrents, dans lesquels M. Zemmour ne travaille pas, ils font la une sur Zemmour. En fait, je ne vois pas où est la censure là-dedans. Franchement, je ne vois pas.
Non, mais là où vous avez raison, c'est que là où il y a quelque chose de pervers, comme souvent dans les médias, c'est qu'Éric Zemmour fait de l'audience. Donc, certains journalistes ou certains médias, pour des raisons d'audience, privilégient d'en parler, et parfois d'en parler beaucoup. Ça, c'est personne ne peut nier cette réalité. Nadia, restez avec nous parce que ce que vous dites vraiment est intéressant et passionnant parce qu'en plus vous avez un avis différent des deux autres auditeurs. Mais comme il est 13h28 et qu'on n'a pas encore entendu Monsieur Olivier de Facebook,
et non, pas encore,
entame sa troisième semaine.
Déjà.
Donc déjà, il tient bon. Est-ce qu'il tiendra jusqu'au
mois de juillet ? J'espère que je vais rester.
J'espère, bien sûr. Trois semaines, mais en même temps, c'est les auditeurs qui décident.
Et oui.
Est-ce que vous souhaitez qu'Olivier continue à la page Facebook ?
On va faire un vote, exactement.
Exactement. Bon.
À l'instant, sur nos réseaux sociaux, Pascal Baptiste s'énerve contre cette décision. Quand on a un discours qui contient des vérités qui dérangent, on met automatiquement la muselière. Laurence nous écrit : le CSA bafoue les principes de notre démocratie. Si on décompte Zemmour, il faut décompter tout le monde. Nicolas ne partage pas cette position. Le type joue sur les deux tableaux avant de lui restituer sa place de polémiste. Il faut qu'il soit clair sur ses intentions. Pour Christian, dire que Zemmour déguise sa candidature alors que Macron a déjà commencé son Tour de France pour 2022, c'est assez paradoxal. Et on finit avec Anne. Décompter son temps de parole ne suffit pas, il faut le boycotter dans tous les médias.
Alors ça, c'est un thème que j'ai entendu effectivement ces derniers jours. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron est à Marseille, il est évidemment à Marseille comme président de la République, mais certains disent qu'il est déjà en campagne électorale. Et là, le temps n'est pas décompté pour le président de la République. Donc il y a débat et c'est une ligne de crête, c'est pas facile. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On parle d'Éric Zemmour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le CSA a demandé aux médias de décompter les interventions. C'est une note qui a deux jours et qui effectivement fait causer, puisqu'il n'est pas candidat. On peut considérer qu'il est pré-candidat, qu'il est candidat putatif, qu'il va se présenter, mais il n'est pas candidat. Donc, un statut a été créé manifestement uniquement pour lui. Nous sommes avec Nadia, nous étions avec Nadia à l'instant. Et Nadia trouve d'abord que les médias sont pro-Zemmour, trop complaisants avec Zemmour. Et elle dit également que Zemmour, son fonds de commerce, c'est l'anti-islam. C'est bien cela, l'anti-musulman. Vous considérez qu'il ne dit que cela. Donc je vous laisse conclure et peut-être poursuivre ce que vous nous disiez.
Oui, oui, c'est pas seulement l'anti-islam, c'est carrément les personnes, quoi. Vraiment, il s'attaque vraiment à la personne musulmane elle-même, d'accord ?
Bah, il considère, alors moi je vais vous apporter, si vous voulez, son argumentation. Lui, c'est un assimilationniste. Il pense que le modèle français, c'est d'assimiler. Donc il pense que ceux qui viennent d'une autre culture, d'une autre terre, doivent laisser de côté précisément leur histoire, doivent renoncer à une part de leur histoire, au nom du vivre ensemble, au nom de s'assimiler. Ça a été le modèle français, en gros, jusqu'en dans les années 80. Par exemple, les parents italiens racontaient que dans les années 30, 40, ils interdisaient à leurs enfants de parler italien. Ils leur interdisaient. Bon, c'est un modèle qui a marché, l'assimilation. Voilà pourquoi il a taxe que vous considérez comme une attaque des musulmans, c'est-à-dire qu'il considère que ce n'est pas une religion qui forcément a sa place en France, si je veux résumer sa pensée. Hein.
D'accord. Ok, et le judaïsme ? Parce que l'islam et le judaïsme...
Les juifs, alors écoutez, les juifs sont incroyablement assimilés, précisément.
Non, mais je ne vous parle pas des juifs. Là, on parle de religion. Je vous parle de judaïsme. Vous avez lu la Torah, le Talmud, est-ce que c'est compatible avec les valeurs de la République ? Si on parle que de religion...
Mais Nadia, je vais vous dire une expression qui montre combien dans les années 70, les Juifs étaient tellement assimilés à la société française. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous faire sourire. Dans Rabbi Jacob, Louis de Funès est absolument extraordinaire. Il dit précisément, Salomon, vous êtes juif ? Ce qui montre, à travers cette petite phrase, que c'est même pas un problème en soi, ou plus exactement, qu'il ne s'en était pas rendu compte. Mais bon, la société a changé, elle est plus communautaire aujourd'hui qu'elle n'était il y a 30 ou 40 ou 50 ans. Mais
J'essaye d'expliquer le chemin intellectuel de Zemmour. Vous voyez, puis après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Vous pouvez considérer que l'assimilation, bah, c'est un modèle ancien. Et qu'il faut mieux aujourd'hui, ou l'intégration, ou le communautarisme. Pourquoi pas ?
Mais monsieur Pro, si on voulait assimiler vraiment les gens, il fallait arrêter l'immigration il y a déjà 30 ans. On ne peut pas...
Bah ça, c'est ce que dit Eric Zemmour, si vous me permettez.
Ah ben oui, mais... ça,
c'est... Parce qu'effectivement, il dit qu'aujourd'hui, avec 10 millions ou 8 millions de musulmans, c'est très compliqué d'assimiler.
Mais comment vous savez qu'il y a 8 millions de musulmans ? Est-ce que musulmans, c'est une race ? Vous allez les chercher où, les musulmans ? Bah, chez les Maghrébins, chez les Berbères, c'est... vous allez...
Parce Nadia, ce sont des estimations qui sont données, mais vous avez raison, il n'y a pas de statistiques ethniques en France.
Et... Mais vous avez raison. Mais arrêtez de parler de musulmans comme une ethnicité. C'est faux, ça. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que des personnes viennent de pays musulmans qu'elles sont musulmanes elles-mêmes. Être musulman, c'est un lien direct avec Dieu. C'est tout. Vous n'avez pas à aller voir l'imam pour lui dire voilà, je veux devenir musulman ou je suis plus musulman.
Vous avez parfaitement raison, Nadia. Vous avez parfaitement raison. Et ce sont des estimations, puisque moi, je répète ou je rapporte plus exactement les estimations qui sont généralement données sur la présence des musulmans en France.
Eh ben, vous savez, moi, vous allez. Vous savez quoi ? J'ai rencontré une personne dont je pensais qu'elle était musulmane. Et malheureusement, enfin, pour moi surtout, parce qu'on a des stéréotypes dans la tête incroyables. Et ça s'est révélé que non. Donc,
Non, mais vous avez là encore raison. Une nouvelle fois, il faut faire attention aux stéréotypes et aux images qu'on a parfois. En tout cas, merci Nadia. Je peux savoir ce que vous faites dans la vie, dans le Vaucluse ?
Je travaille dans un collège catholique.
Bah, c'était intéressant de vous écouter.
Voilà. C'est juste pour dire que si on coupe l'oxygène de Zemmour, qui est la haine anti-musulmane et anti-immigré, il n'a plus rien d'autre. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, ça fait des années qu'il parle de ça et aujourd'hui, on nous dit qu'on le baillonne. Mais arrêtez, il faut arrêter, on le baillonne nullement. Moi, j'étais sur YouTube, on m'a proposé des vidéos de Zemmour, je ne les ai même pas demandées. Donc, il faut arrêter, quoi.
Nadia, merci. Et puis, je vous assure, merci. On va laisser passer une nouvelle... pause, mais vraiment c'est toujours intéressant d'échanger avec des avis qui sont différents. On a eu deux ou trois avis qui étaient plutôt pro-Zemmour et puis Nadia et avec des arguments aussi qu'on peut entendre a expliqué que elle ne partageait pas les idées et elle pouvait même trouver que ces idées pouvaient être un danger pour la société française. C'est en tout cas ce que j'ai compris. Il est 13h38. Jean-Paul Belmondo, ça peut vous intéresser. Abdeslam, ça peut vous intéresser. Agnès Buzyn, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, il y a un côté un peu justice populaire. On réclame des têtes. Le public réclame des têtes. Mais est-ce qu'il faut juger les ministres ? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Vous pouvez parler au 3210 d'Agnès Buzyn qui est devant la Cour de justice de la République. L'ex-ministre de la Santé est entendu pour s'expliquer sur la gestion de la crise du Covid. Agnès Buzyn s'est dit déterminée à son arrivée un peu avant 9h.
Aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits. Et je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement ou mon action en tant que ministre alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays à une crise sanitaire mondiale dont, je le rappelle, elle dure encore.
Et dans cette affaire, les magistrats vont mettre Agnès Buzyn face à ses contradictions.
Notamment ses déclarations à deux mois d'intervalle expliquant en janvier que les risques de propagation du coronavirus en France étaient très faibles, puis en mars, alors qu'elle n'était plus ministre, que l'organisation des élections municipales était une mascarade, que la vague était devant nous.
Faut-il juger les ministres ? Peut-on gérer une crise sous la menace judiciaire ? Donnez-nous votre avis sur ces questions dès maintenant au 3210.
Et Benoît va nous le donner précisément cet avis. Bonjour Benoît.
Bonjour Pascal, vous allez bien ?
Extrêmement bien. Ça me fait plaisir de vous entendre. Vous habitez dans les Hauts-de-France. Qu'en pensez-vous ?
Ben moi, je trouve que c'est pas à elle de faire d'être coupable. C'est comme une entreprise quand Julien Courbet fait son émission. C'est qui le patron ? C'est le président de la République.
Oui.
Ben pourquoi on ne demande pas au président de la République de rendre des comptes ? Bah,
mais tous les 5 ans, on lui demande de rendre des comptes et oui. Ça s'appelle une élection présidentielle.
Oui, mais pourquoi là, actuellement, on va faire une procédure contre une ministre qui n'a rien demandé. À l'époque, c'était qui le patron ? C'était le président de la République, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère comme une entreprise, comme Julien a dit. Le gérant, c'est le président de la République. Eux, c'est quoi? Des cadres, et en dessous, il y a les ouvriers.
Oui, mais le président, en plus, durant l'exercice de son mandat, il est... on ne peut pas le mettre en responsabilité pénale.
Oui, mais pourquoi alors?
Sauf cas extrême, évidemment, si... Pour une voie de fait ou des choses comme ça, il y a possibilité, mais dans le cadre de son activité, il ne peut pas être.
Bah
on
ne
peut
pas lui reprocher. Un salarié, en fait. Un salarié,
ah oui, mais ce n'est pas la même chose. Convenez qu'un président de la République, Madame Buzyn, ce n'est pas la salariée de M. Macron.
Bah, c'est quand même les équipes qui payent son salaire. Donc pour moi, c'est le président de la République qui fait les chèques tous les fins de mois ou les salaires.
C'est pas le président de la République qui fait les chèques tous les fins de mois, Benoît.
Non, c'est lui pas, qui dit, c'est payer les ministres. C'est pas, pour moi, vous c'est êtes, pas trop de la société. Hein.
Écoutez, franchement, parfois je suis démuni. Hein. Moi, j'adore cette émission parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous pensiez que ça, c'est ça qui est intéressant dans cette émission. Peu importe que vous ayez raison ou pas, c'est pas le problème. Mais que vous le viviez comme ça, ça m'intéresse. J'imaginais pas que vous pouviez penser que l'Élysée, c'est une entreprise avec un patron qui fait le chèque en fin de mois à son ministre.
Bah si, s'il travaille bien, c'est quand même lui qui gère le ministère, il est grand patron, il donne le budget, donc c'est lui qui paye les salariés. Donc moi je trouve qu'on s'en prend aux salariés, pour moi la ministre c'est qu'une salariée de l'Élysée.
J'ai entendu, mais là vous aurez du mal à me convaincre. Bon, en tout cas, mais vous pensez de la même manière que le président de la République, par exemple, il doit être poursuivi sur les actions, alors poursuivi sur le plan pénal, hein, bien évidemment, sur les actions qu'il prend.
Ben oui, c'est quand même le grand patron de la France.
Ben vous trouvez pas que c'est dangereux?
Ben, comme on entend sur Julien Courbet, dans une entreprise, qui c'est qui prend quand ils vont au tribunal? C'est le gérant de la société.
Mais je suis d'accord avec vous, Benoît, mais je vais pas vous dire, je vais pouvoir répéter en boucle que il n'est pas gérant de l'Élysée, c'est pas la même chose quand même.
C'est lui qui gère les ministres. Les ministres ne font pas ce qu'ils veulent. Il faut l'accord du président de la République. Il faut
c'est
les
un
ministres,
peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça.
On devrait laisser tranquille et puis dire le président de la République, il assume ses responsabilités, peu importe le président qui était actuel. Pour moi, c'est lui qui doit gérer. Il fait des réunions de crise sanitaire tous les mercredis, des choses comme ça. C'est lui qui gère. Si la ministre n'a pas l'ordre du président de la République, de son patron, de dire ah,
j'ai compris. J'ai compris, Benoît. Bah, écoutez, je vais vous remercier parce que c'est toujours intéressant d'avoir des avis un peu différents, forcément, et pourquoi pas iconoclastes. Donc, quel est le programme aujourd'hui, cet après-midi, Benoît? Qu'est-ce que vous allez faire?
Moi, je vais faire du jardinage et puis ce soir, je mange moules frites. Donc,
ce soir, pardon?
Moules frites ce soir, donc il faut que je nettoie les moules.
Ah oui, vous avez acheté les moules ce matin?
Oui.
et c'est long de nettoyer les moules?
Ah oui, il faut retirer la coquille, tout ce qui est gratté, il faut les gratter, oui.
Et moules frites. Alors, parce que vous savez que nous, à RTL, on aime bien effectivement les recettes culinaires. Donc, moules frites, vous les préparez comment?
Au vin blanc, avec du persil, de l'ail, de la ciboulette.
Et donc, ça sera, il y a une petite entrée ou c'est uniquement moules frites?
Et en entrée, tomate mozzarella.
Et vous êtes tout seul ou avec des amis?
Non, avec ma famille, nous, en famille, on fait ça. Enfin,
vous êtes combien?
5.
Je peux venir?
Pour 5 personnes, on prend 8 kilos d'huîtres.
À quelle heure on dîne?
Vers 20h.
Et vous habitez où?
Chivreval, dans l'Aisne.
Attendez avec Damien Béchier. Parce que moi, le vendredi soir, je travaille pas.
Laurent aussi, Olivier, quand même.
On peut venir avec des amis ou pas?
Ah oui, je vais en chercher encore. Il y en a plein dans ma casa. Ça ne sonne pas.
Bon, merci Benoît en tout cas, et vraiment bon dîner ce soir. C'est vrai que c'est le week-end. C'est pas mal le week-end.
Parce que nous, dans l'agriculture, on n'a pas beaucoup de week-end. Donc quand on peut en avoir un petit peu en ce moment, ça fait du bien.
Ah oui, parce que vous ne travaillez pas ce week-end, samedi et dimanche?
Non, les pommes de terre, c'est que la semaine prochaine pour les arrache. Donc ça va, ça fait un petit week-end tranquille.
Ah oui, effectivement. Les pommes de terre, on les arrache plutôt en septembre?
Il y a du retard, oui. Donc on les fait là à partir de la semaine prochaine.
Merci Benoît. Vraiment, merci et bon moule frites. Il est 13h47. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Philippe Infirmier et faut-il poursuivre les ministres dans l'exercice de leurs fonctions sur le plan pénal? Je le précise, Philippe. Qu'en pensez-vous?
Oui,
bonjour.
Moi, je pense qu'ils ont une responsabilité. Donc, à un moment donné, il faut répondre pénalement s'il y a eu faute. donc ils doivent être poursuivis s'il y a eu faute.
Mais oui, mais faute, c'est intéressant ce que vous dites. Par exemple, Agnès Buzyn, elle pourrait être mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Nous sommes d'accord. Oui. Bon. Sur le plan pénal, il faut qu'il y ait une volonté de nuire. Or, un ministre, je n'imagine pas qu'il ait la volonté de mettre en danger la vie d'autrui. Alors après, il y a des décisions politiques que tu peux prendre, qui sont effectivement des mauvaises décisions politiques, mais est-ce qu'elles doivent être poursuivies sur le plan pénal pour cela ? C'est ça la question.
Bah, la mise en danger d'autrui, elle peut être aussi, indirectement liée, c'est-à-dire qu'elle a pris des décisions où elle a caché certaines choses qu'elle savait, peut-être qu'elle n'avait pas conscience qu'elle mettait en danger la vie d'autrui.
C'est tout le débat, et c'est pourquoi je vous pose ce débat. Moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que, je vous répète, il faut qu'il y ait une volonté, en tout cas sur le plan pénal, qui est une volonté de nuire, forcément.
Alors ça, au niveau pénal, moi, je ne sais pas y répondre. Si vraiment la mise en danger d'autrui, il faut qu'il y ait une volonté vraiment de nuire. Ça, c'est vrai qu'il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait eu volonté de nuire. Mais par contre, des décisions qu'elle a pu prendre, ou ce qu'elle a caché, ou ce qu'elle savait qu'elle a caché, ça nuit. Ça nuit et ça met en danger la vie de.
Mais est-ce que c'est de la responsabilité pénale? Parce qu'après, il y a une responsabilité politique. C'est-à-dire que devant les électeurs, c'est ce qu'on dit généralement. Un ministre est responsable devant ses électeurs.
Regardez, elle a eu un échec au municipal, elle a quand même été recasée à l'OMS. On sait qu'il n'y a pas de responsabilité politique derrière. Elle n'existe pas, c'est faux ça. Il y a toujours des sorties, il y a toujours des... Voilà. Donc à un moment donné aussi, il faut qu'il y ait une responsabilité pénale parce que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Il y a une défiance vis-à-vis des politiques depuis des années. Les gens ne votent plus, les jeunes ne votent plus. Donc ça peut devenir problématique à un moment donné. Donc,
alors, le sentiment que j'ai, moi, c'est que si vous mettez en place une société comme ça, les ministres ne feront plus rien. C'est ce que dit Jean Castex, c'est-à-dire que ça paralysera le système et les effets pervers, c'est-à-dire que les gens penseront d'abord à eux et à échapper à toute poursuite pénale.
Oui, mais d'un autre côté aussi, il faut savoir que ces postes-là sont des postes à haute responsabilité et il faut assumer ces responsabilités-là. Et s'ils ne veulent pas les assumer, ben ils n'iront pas vers ces postes-là, il y aura d'autres personnes.
Quelles sont les autres personnes qui iront si les meilleurs n'y vont plus ? C'est aussi une question qu'on peut se poser.
Oui, c'est vous qui dites que c'est les meilleurs. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs qu'eux.
Mais c'est une bonne remarque, Philippe. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison.
Peut-être que c'est meilleur, ils ne peuvent pas y accéder parce que le système il est sclérosé. Peut-être qu'il y a d'autres solutions à trouver. Il ne faut pas non plus rester sur des choses figées, je pense. Et quand il y a des fautes, il y en a eu, il faut qu'elles soient aussi sanctionnées pénalement, puisqu'il y a eu des incohérences, il y a eu des mensonges, il y a eu des problèmes, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que je pense que cette épidémie, en tant que soignant, en tout cas, elle aurait pu être mieux gérée.
Merci beaucoup Philippe, merci.
Merci à vous.
Merci, vous êtes infirmier, vous habitez Marseille, hein, c'est bien ça.
C'est ça, à côté de Marseille.
Alors, il est 13h54, Jean-Alphonse Richard est là, il va nous donner dans une seconde le programme de l'heure du crime, mais vous le savez, en fil rouge, on a suivi les obsèques de Jean-Paul Belmonteau dans l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et Alain Terzian a été rencontré il y a quelques minutes par Laurent Marsic qui était sur place. Et je vous propose d'écouter Alain Terzian qui est un producteur célèbre, notamment des années 70-80 et qui a beaucoup réalisé de films et produit de films et avec Alain Belmondo et avec Alain Belmondo. Quel lapsus ! Et avec Alain Delon et avec Jean-Paul Belmondo.
Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Tout le monde avait le cœur serré et pensait à lui, et à un moment il a été applaudi sur un discours de Lelouch. Il y a eu une standing ovation bouleversante. Et,
qu'est-ce qui restera pour vous de Jean-Paul Belmondo ?
Restera un ami de 50 ans, un immense acteur, une légende, et surtout un exemple, parce que il était d'une telle bienveillance, il se prenait jamais la tête, était profondément gentil et généreux, il avait une attention aux autres incroyable.
Belmondo, l'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Voilà, on va rester effectivement avec Jean-Paul Belmondo. C'est une heure du crime un peu exceptionnelle parce qu'on va lui rendre hommage à notre façon, évidemment, dans l'heure du crime. On aurait pu choisir le film Stavisky, par exemple, où il a incarné le fameux escroc. On a préféré être resté dans le spectaculaire et la cascade, parce que ça, c'est Bébel aussi, avec Le Cerveau. Pourquoi Le Cerveau ? Parce que c'est un film qui est directement inspiré de l'un des plus grands casse du siècle. On écoute la musique ô combien british, le train Glasgow-Londres, un butin incroyable, des malfaiteurs, une quinzaine de malfaiteurs qui sont montés dans ce train et qui ont raflé aujourd'hui l'équivalent de 50 millions d'euros, c'est pas mal. Ça reste dans l'histoire des casses comme le plus grand casse du siècle.
Ils ont été repris ?
Ils ont été repris, oui. Alors, il manque quand même une personne à l'appel, si je puis dire, c'est l'informateur, qu'on appelle The Ulsterman, l'homme de l'Ulster, ça serait un Irlandais, et on n'a jamais su vraiment qui il était. Mmh. Le cerveau, on croit savoir qui il est, hein. C'est un Bruce Reynolds qui a été arrêté, mais enfin qui n'a jamais rien dit. Ils n'ont jamais rien dit, des vrais gangsters.
Le casse le plus important en France, ça reste Spadjari ?
Ah, Spadjari, c'est important. Après, les montants sont difficiles à évaluer parce qu'au fil du temps, etc. Mais Spadjari, c'est le plus spectaculaire. Et il était ami avec un des malfaiteurs du casse de Glasgow-Londres.
Je crois qu'il y avait un film qui était sorti à l'époque qui s'appelait Les égouts du paradis.
Absolument. C'était un livre aussi.
Je me demande si c'était pas Francis Huster qui était dedans ou qui avait peut-être joué Albert Spadjari, qui s'était d'ailleurs échappé en sautant.
Et on l'avait proposé, on a proposé à Belmondo beaucoup de rôles comme ça. Ouais. On lui avait proposé Mesrine, il a refusé. Et on lui avait proposé également aussi Spadjari. Ça, c'est pas
qui
fait,
s'était échappé d'un bureau du juge d'instruction.
Ouais. Sautant du premier étage à Nice du bureau du juge d'instruction sur le toit d'une voiture. Formidable.
Merci Jean-Alphonse Richard. Ce sera donc à 14h30. On parlera d'Abdeslam dans la dernière demi-heure. Vous pouvez également parler des 80 km/h. Faut-il en finir avec les 80 km/h ? Vous êtes peut-être en train de rouler d'ailleurs en ce moment. Donc pourquoi pas, appelez-nous. A tout de suite après le rappel des titres.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Après pratiquement deux heures de cérémonie en l'église Saint-Germain-des-Prés, le cercueil de Jean-Paul Belmondo est sorti sous les applaudissements de la foule venue pour un ultime adieu. De nombreuses stars ont entouré les proches de l'acteur pendant la messe. Alain Delon, Claude Lelouch, Pierre Richard, Jean Dujardin. Il y avait également Hugues Aufray, un copain d'enfance de Bébel. Écoutez.
Bah, bien sûr, l'émotion, je perds un copain, un camarade de classe. J'étais en classe avec lui, j'étais en philo, il était en quatrième, moi j'avais 18 ans, il en avait 14. Et il y avait une grande différence. Mais on était tous les deux les cancres de l'école.
Oui, non, bah, c'est une cérémonie qui ressemblait beaucoup à Jean-Paul, simple et humaine.
Hugues Aufray au micro de Laurent Marsic pour RTL, c'était juste après la cérémonie. La troisième journée du procès des attentats du 13 novembre 2015 vient de débuter. Cette audience va être principalement consacrée aujourd'hui à la lecture du rapport d'enquête. Une enquête titanesque et ensuite, comme le veut la procédure, le président de la cour d'assises spéciale devra résumer pendant de très longues heures les 542 tomes du dossier. Après 13 mois de tractations politiques en pleine crise économique, ça y est, le Liban se dote d'un nouveau gouvernement. Le président Michel Aoun vient de désigner Najib Mikati comme Premier ministre. Une ligne ferroviaire va relier Londres à 12 stations de ski françaises. Ce sera une ligne privée lancée par la Compagnie des Alpes en accord avec Eurostar. Elle desservira sans arrêt Moutiers et Bourg-Saint-Maurice, deux gares majeures de la vallée de la Tarentaise, tous les week-ends de la prochaine saison de ski, à raison d'un train aller et d'un train retour par semaine. Ensuite, ce seront des bus, eh bien, qui assureront les liaisons. La météo demain, retour d'un temps sec dans la plupart des régions. Il restera encore un petit risque de pluie le matin de la Bourgogne au nord-est. Après une matinée encore nuageuse, le ciel se dégagera largement l'après-midi, notamment dans la moitié sud. Les températures, elles seront un peu plus fraîches le matin, entre 10 et 15 degrés en général et de 15 à 20 degrés dans le sud-est. Il est 14h02 sur RTL. Pascal Pro et les auditeurs ont la parole.
Agnès, vous avez parlé d'Hugues Aufray. Je regardais la date de naissance d'Hugues Aufray. Il est né le 18 août 1929. Donc c'est un homme qui vient d'avoir 91 ans. Exactement. Je ne sais pas si vous avez vu les images hier d'Hugues Aufray et ce matin. C'est un homme à qui tu donnes 20 ans de moins.
Incroyable.
Hugues Aufray, il chante toujours sur scène. Alors c'est vrai qu'il explique qu'il ne boit pas, qu'il ne fume pas. On va peut-être tous arrêter de boire et de fumer parce que tu es en forme à 91 ans. On peut boire un petit verre, bien sûr, avec modération. Mais la santé et le physique d'Hugues Aufray...
C'est bluffant à chaque fois.
Bluffant. 14h03, merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Faut-il faire taire Salah Abdeslam, je le dis mal, Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos, a de nouveau pris la parole pour dédouaner trois de ses co-accusés. Certains disent d'ailleurs qu'il fait des provocations. Pour lui, je ne suis même pas sûr que ce soit des provocations. C'est-à-dire qu'il se place dans une défense de rupture où il ne reconnaît pas les juges qui sont devant lui, le tribunal qui est devant lui, et il parle de la justice divine plus que de celle des hommes. Nous sommes avec Charles, bonjour, qui est juriste à Lyon. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous ?
Ça va très bien. Faut-il le faire taire selon vous ?
C'est au président de la cour d'assises spécialement mise en place qu'il appartient la police de l'audience.
C'est ce qu'il a fait hier d'ailleurs, puisqu'il lui a coupé le micro.
Oui. Je pense qu'il faut impérativement qu'il instaure une discipline extrêmement ferme, parce que moi, je suis convaincu que c'est un nouvel acte de terrorisme. J'ai regardé la définition du mot terrorisme dans le Larousse. Mmh. C'est un ensemble d'actes de violence commis par une organisation, un individu, pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Donc, vous imaginez, c'est exactement la continuation, c'est l'extension des actes pour lesquels il est mis en culpabilité, il continue. En fait, il veut.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Mais c'est au président du tribunal de décider. Il doit être ferme. S'il doit couper le micro, il doit couper le micro. Oui. S'il doit lui faire évacuer la salle parce que il met en horreur absolument tout le monde et qu'il terrorise tout le monde, il n'y a aucune demi-mesure à prendre. Oui. Et je pense que ces attentats, qui sont d'ailleurs, comme le dit un ami de Chambéry avec qui je parlais tout à l'heure, c'est l'arbre qui cache la forêt d'un problème bien plus grand, qui est celui du radicalisme. Lui, il est dans cette mission, une mission qu'il dit être divine. Donc, c'est au président du tribunal de prendre les décisions les plus fermes. Il y a beaucoup de monde dans cette salle d'audience. C'est une salle d'audience immense. Vous avez vu les images. D'un côté comme de l'autre, pour qui que ce soit, une partie civile se lèverait et hurlerait des insanités et des gros mots à l'endroit des accusés. Je crois que la presse et le public seraient choqués. Là, on n'est pas choqués, on est terrorisés par ces mots. Donc, à la limite, est-ce qu'il ne s'agit pas d'apologie du terrorisme ?
Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de vous écouter. C'est ça qui permet la discussion, parce que dans un état de droit, les droits de la défense sont très importants et on est toujours partagé entre vouloir écouter la défense et utiliser, ou plus exactement être sous le coup de lois que précisément les autres États n'ont pas forcément, ou ceux qui nous attaquent n'ont pas forcément. C'est notre honneur de la démocratie, c'est ce qu'on entend parfois. Mais ce que disait très bien Cindy Huber également tout à l'heure, c'est une ligne de crête, même pour nous les médias. Hein. On se pose cette question. On va être avec Thierry. Bonjour Thierry, qui habite la Charente. Moi, j'entends depuis 2-3 jours, par exemple, vous glorifiez Abdeslam. Vous en parlez, vous en faites une star. J'entends ça parmi les auditeurs.
Ouais, alors, on peut le percevoir comme ça. Et moi, déjà, j'aurais un souhait, alors, qui est personnel, peut-être partagé par bon nombre de personnes, mais j'aimerais bien qu'on dise l'accusé principal et qu'on arrête de prononcer son nom et son prénom, parce que en face de lui, il y a quand même plus de 140 victimes et elles passent complètement à l'oubli. On ne parle que de lui et je suis sûr que ce personnage, il a du public à l'extérieur. Et le mettre dans la lumière comme ça glorifie une certaine tranche de, je vais dire personnes, c'est pas des personnes, parce que pour moi, c'est pas des humains. Mais ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est pas son procès. C'est pas son procès à lui. C'est le procès des attentats de 2015. Donc, on devrait dire l'accusé principal. Et je ne sais pas si l'auditeur précédent est encore là, parce que je pense que, par son statut professionnel, il va peut-être pouvoir répondre à une question que je me pose. Mmh. Est-ce que la présence de cet individu est obligatoire dans le bâtiment de la cour d'assises ? Parce que dans ce cas-là, sinon, on lui met une webcam, on laisse dans sa cellule ou dans sa prison, et si on a besoin de le faire parler, on lui allume sa webcam, on lui allume son micro, on écoute ce qu'il dit, si ce n'est pas intéressant, on coupe tout. Enfin, voilà.
Parce que si c'est pour mettre cet individu-là et créer, comme le disait à juste titre Charles, je crois, c'est ça, il crée une terreur dans ce bâtiment. Mais moi, on a même du mal à distance de vivre ou de ressentir ce que doivent ressentir les personnes présentes ou les familles. Parce que quand elles rentrent chez elles le soir, elles allument la télé, elles entendent quoi? Elles entendent le nom et le prénom de ce type, de ce machin. Alors que pour moi, c'est juste un prévenu, et à la limite, l'accusé principal. Mais pas quand on nomme une personne, pour moi, quand on met un prénom et un nom, je dis bonjour Pascal Praud, je dis pas bonjour monsieur.
Alors, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille un livre de Eti, qui est une femme, c'est une écrivain, Eti de T.Y. Mansour. Et elle a écrit « Convoyeur de la mort ». Alors, c'est un gros livre de 569 pages. Et c'est le fruit de 4 ans d'enquête, des dizaines d'entretiens, notamment avec la fiancée du terroriste, de monsieur Abdeslam, et elle tente d'éclairer l'énigme de cet homme, de reconstruire les raisons sans lui donner évidemment raison. Et elle embarque donc d'une certaine manière le lecteur dans une quête où elle explore, alors c'est toujours particulier, hein, la psychologie, la personnalité de Abdeslam. Et effectivement, tu te rends compte qu'il y a un désir enfantin, narcissique de gloire et de lumière. C'est incontestable.
Ouais, mais il a quand même eu 6 années pour bien se préparer et c'est très bien ce qu'il allait dire. Mais j'aimerais quand même bien savoir si c'est vraiment obligatoire qu'il soit présent, parce qu'en plus ça demande des forces de police.
Mais c'est les droits de la défense, Thierry.
Mais je sais pas.
C'est le minimum. Un accusé a le droit de se défendre.
On a déjà fait de la justice par visioconférence.
Alors, j'avais pas pensé à cela pour tout vous dire, mais je ne sais pas quoi répondre à cette question.
C'est pour ça que je me pose la question.
Mais là, a priori, c'est même pas a priori, chaque accusé a le droit d'être défendu de la même manière dans tous les procès au nom de l'équité. Il n'y a pas de discussion, on est dans un état de droit.
Je ne discute pas sa défense, ouais. je discute sa présence physique.
S'il n'est pas là physiquement, ce n'est pas la même chose, forcément.
Mieux pour les familles et les autres.
Oui, mais il pourrait considérer qu'il ne peut pas se défendre de la même manière et que s'il est présent,
ouais,
ça peut...
Ça dépasse mes compétences. Ouais.
Bon, merci en tout cas Thierry, merci.
Mais arrêtez de le nommer par son nom et son prénom, c'est insupportable.
Le principal à accuser, mais c'est ce que vous dites, vraiment moi j'écoute beaucoup depuis 3-4 jours et j'entends ça. Pourquoi pas, effectivement, de dire le principal accusé. C'est assez intelligent ce que vous dites, parce que vous proposez une alternative. C'est ça que j'aime bien dans votre prise de position. C'est-à-dire que vous ne faites pas que regretter ou condamner quelque chose, vous proposez une alternative. Et effectivement, on pourrait dire le principal accusé. Pourquoi pas. Olivier, Facebook, et puis après on parlera de Jean-Paul Belmondo.
Dominique nous écrit: arrêtez de parler de lui, on lui donne beaucoup trop d'importance à ce monstre. Pour José, sa stratégie est bien réfléchie et nous, on tombe dedans. Antoine, quant à lui, s'énerve. La vraie solution serait qu'il ne soit pas du tout entendu. Il ne respecte pas notre démocratie, donc aucune raison de l'appliquer. On conclut avec Elisabeth: je ne comprends même pas comment il peut encore être sur notre territoire 6 ans après les faits.
On lui offre une tribune mondiale, hein. Je lis ça également sur les réseaux. C'est vraiment très intéressant et ce courant est assez, je ne sais pas s'il est majoritaire, mais en tout cas il est important. Belmondo, vraiment on va terminer cette émission avec cet hommage qui hier était poignant, saisissant, émouvant, magnifique, le magnifique Belmondo. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avant de parler de Jean-Paul Belmondo, juste François, parce que François Gagnère est restaurateur, il a été hier avec nous toute la journée, on cherchait pour lui un chef de rang à 1700 euros net par mois, et on n'avait pas trouvé hier à 14h30,
oui,
alors je disais que je jouais les Julien Courbet, eh bien on a trouvé. Bonjour François, vous avez trouvé?
Oui, bonjour Pascal, oui on a trouvé effectivement suite à l'annonce que vous avez gentiment passée.
Ah, c'est grâce à nous ?
On a reçu quelques mails. Oui, bien sûr.
Ah, bien
sûr. Oui, c'est super. Et du coup, on a une personne qui a démarré ce matin. Donc
un garçon ou une fille ?
C'est une fille, c'est une maman, mais qui aura possibilité de travailler le midi. Donc, ça lui convient parfaitement. Et puis voilà.
Quel profil, elle était au chômage ?
Elle était... Je ne pense pas qu'elle était au chômage puisqu'elle elle élevait ses jeunes enfants. Elle a des enfants en bas âge. Mmh. Mais elle voulait reprendre une activité un peu plus allégée, même si c'est un temps complet qu'on propose, du mardi au samedi.
Bah écoutez, vous savez, ce qui serait bien, c'est que lundi ou mardi, elle nous appelle. Qu'est-ce que vous en pensez pour savoir comment ça se passe ?
Eh bien, écoutez, si vous souhaitez, plutôt mardi, parce que nous sommes fermés dimanche et lundi, mais je peux voir ça avec elle. Oui.
Eh bien, on fera un petit coup de fil, ou vendredi prochain, si vous voulez, vous voyez, pour savoir au bout d'une semaine comment ça se passe.
Et puis nous, on va bien sûr retransmettre toutes les autres mails, si les gens le souhaitent, à d'autres collègues qui sont aussi dans la recherche intense de membres, de collaborateurs. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, François. Il est 14h15, le professionnel.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
C'est un moment sublime, 5 minutes d'applaudissements avec cette musique du professionnel. Et ce cercueil, porté par des gardes républicains qui quittent la cour des Invalides, sous les yeux de la famille, des amis, des comédiens, du public, et tout le monde était en larmes. Tout le monde était en larmes. Moi, j'étais hier dans un bureau avec des collègues, nous étions 5, nous étions pris à la gorge, et effectivement, il y avait des larmes. Arnaud qui habite Reims, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous avez vu ce
moment ? Eh oui, poignant, émouvant. Et au trip, c'est vrai que c'est la foule, cet hommage populaire. Un titre joué avec une grande justesse, durant 5 minutes en effet. Vraiment, c'était un sacré truc.
La puissance des rites dans nos sociétés. Un rite républicain hier, un rite catholique aujourd'hui, qui permet de se retrouver, de dire au revoir à celui qui part. C'est aussi une part de la France, c'est une part de l'Occident. Il y a aussi cette dimension-là, avec cette, j'ai envie de dire, cette France-là qu'il y avait hier dans la cour des Invalides.
Ah, moi, je ne m'y attendais pas. Autant de foule, autant de peut-être de larmes, même pour certains. Je ne m'attendais pas à un hommage aussi poignant. Et vous ?
Moi, je suis comme vous, mais je sais que je réagis toujours. J'ai une fibre très populaire sur ces événements-là, donc je me connais et je partage immédiatement avec le plus grand nombre. Oui. Donc je regarde ça et je suis ému aux larmes, je ne peux pas vous dire autre chose. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que je pleure pas beaucoup dans la vie, mais dans ces événements-là, que ce soit au cinéma ou à la télévision, j'ai la larme facile, comme dit l'autre.
Oui, ouais, mais la cérémonie, l'hommage était extérieur. Vous voyez tout le monde fondre en larmes en ouais. Quelques secondes.
Ah oui, non, mais Jean Dujardin, Gilles Lelouch. Il y avait également la maman de Paul Belmondo qui était là, Élodie. Qui est la maman de la première épouse de Jean-Paul Belmondo. C'était très émouvant de l'avoir aux côtés de son fils, Paul Belmondo, qui doit être de 64, qui est un garçon qui a près de 60 ans aujourd'hui, qui fait très jeune d'ailleurs. Et vous entendez là, parce que Damien Béchiot, entendez les applaudissements et on entend également des sifflets.
Oui, et ça a duré, très longtemps. Allez. En tout cas, un sacré moment.
C'était magnifique, franchement, c'était magnifique. Merci Arnaud, vous savez...
De rien.
Merci, bonne journée à Reims.
Bonne journée.
Jeudi, vous savez qui on va recevoir maintenant ? On va recevoir Rulio, mais est-ce le vrai Rulio ? Alors on va poser la question après la pause. Est-ce ?
À bientôt.
Est-ce le vrai Rulio ? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Rulio ?
Non ?
Vous êtes Rulio ?
Oui, je m'appelle Rulio et je vous remercie beaucoup, Pascal.
Ça me fait plaisir, mais vous êtes le vrai Rulio ?
Je suis le sosie à Belmondo.
Ah, bah écoutez.
Je vais vous dire pourquoi, parce que depuis l'âge de 16 ans, tout le monde me dit tu ressembles à Bebel.
Non.
Donc il a. Ah bah si.
Alors évidemment, à la radio, ça se voit moins.
Non, mais je vous dis que je ressemble à Bebel. Tous les gens me le disent.
Bah oui, mais.
Donc, toute ma vie, ça a été Bebel. On me dit, t'es la gueule à Bebel. Ok, d'accord. Et puis, quelques années plus tard, mon fils, il va travailler dans le 14e, dans la boutique à Bebel, la préférée. Il y a des photos de partout de lui dans la boutique. Et puis, mon fils, comme c'est un copain à Bebel, il lui dit, mon père, il vous ressemble. Il aimerait bien vous rencontrer.
Parce que votre fils connaît Jean-Paul Belmondo.
Bah, vous allez dans la boutique dans le 14e, il y a sa photo partout avec nous. Il venait 15 fois par an dans la boutique.
Mais c'était une boutique de quoi ?
Bah, téléphonie.
Ah ben écoutez, c'est étonnant ça.
Vous rentrez dans la boutique, c'est facile, il y a des photos de Bebel partout.
D'accord.
Avec nous.
Mais ça c'est un hasard, c'est-à-dire que c'est par hasard qu'il est venu dans cette boutique, c'est pas parce que vous ressemblez à vous-même à Jean-Paul Belmondo.
C'est par hasard.
Donc c'est un signe.
Il m'a suivi partout, Belmondo. Donc il va là-bas,
Je ne sais pas qui a suivi qui, mais...
Je ne sais pas. Et mon fils dit à Bebel, mon père vous ressemble, il veut vous rencontrer. Et donc Bebel, il lui dit, il venait de se faire opérer. Imaginez, il sortait de la clinique, c'était un vendredi, je m'en rappellerai toute ma vie. Il s'était fait opérer de la cataracte. Et il vient voir mon fils, il dit, appelle ton père. Et moi, j'habite Fontenay-aux-Roses. Il m'a fallu une heure pour arriver à la boutique.
Et vous êtes grand comme lui ? Vous faites 1m80 ?
Je ne fais pas 1m80, je fais 1m76.
Donc, c'est comparable.
Et j'allais boxer dans sa salle. J'allais faire de la boxe dans la salle Bebel, à Issy-les-Moulineaux.
Bon, et avec. Donc, ça vous a aidé dans la vie de ressembler à Jean-Paul Belmondo ?
Bah, écoutez, tout le monde me disait t'es Bebel. Et donc, Bebel, il m'attend. Je m'assois à côté de lui pendant une demi-heure, on fait des photos, et il y a 15 jours, je regardais les photos de Bebel chez moi, dans ma maison, et il vient de mourir. Punaise, comment ça me fait mal. Et on le connaît, vous savez, je connais Nati, je connais plein de personnes qui étaient avec Jean Dujardin, j'ai joué avec lui, j'ai fait un gars et une fille avec Jean Dujardin.
Ah mais vous êtes aussi comédien ?
Bah, il m'a demandé de faire un gars et une fille.
Mais parce que vous ressembliez à Bebel ?
Non, pas du tout, c'est le hasard.
C'est le hasard.
Là. Bon. Et ils m'ont pris comme figurant. Je devais servir Jean Dujardin et Alexandra Lamy.
Donc, bah merci Roulio. Ça va être le débrief, donc je vais être obligé de vous couper.
Ouais, mais en tout cas,
moi je ressemble à Alain
à
de loin.
Pascal. Non, mais moi je vous suis tous les soirs alors à la télé. C'est facile. Je vous suis donc, tout le temps.
Et ben c'est gentil.
Et je vous remercie beaucoup.
Roulio, c'était sympa de vous avoir parce que c'est rigolo comme témoignage et puis hommage à Jean-Paul Belmondo et vraiment merci. 14h25, c'est le dernier débrief de la saison. C'était un plaisir de la saison,
de la semaine.
Wow. Oh là là, c'était quelle un annonce. Plaisir que cette d'être avec Damien Béchiot une nouvelle fois pendant ces 5 jours.
Ah merci, j'ai eu peur.
Et exactement. Et donc le débrief avec l'ami.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir au standard. Faut-il décompter le temps de parole d'Éric Zemmour ? Est-il victime de censure ? Le CSA considère le polémiste comme un acteur du débat politique national. David, étudiant à Sciences Po, est choqué par cette annonce.
Le CSA, qui est censé être une autorité administrative indépendante, elle est administrative certes, mais elle est loin d'être indépendante. Et je pense que si Éric Zemmour aujourd'hui a son temps de parole qui est décompté, ben c'est uniquement parce que c'est un personnage qui gêne. Et que si c'était possible de le faire taire, on essaierait de le faire taire au maximum.
Alors Éric Zemmour dérange-t-il ? Sûrement pour Cédric.
C'est un éditorialiste politique. Il a clairement choisi son camp, mais d'autres l'ont fait. Christophe Barbier, il est plutôt macroniste. Yves Tréhard, il est plutôt de la droite libérale. Laurent Geoffrin, il défend la gauche depuis 30 ans. C'est des éditorialistes politiques. Pourquoi ces gens-là ne décompteraient pas leur voix non plus ?
Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avions aussi d'autres sujets qui agitent la France.
Est-ce que vous souhaitez qu'Olivier continue à la page Facebook ?
On va faire un vote.
Exactement.
Ah, vous pensez vraiment, Pascal, que les Français vont réagir ?
Ça, c'est vraiment un sujet capital, me semble-t-il.
Alors, vous savez, je ne répondrai pas à cette question personnellement. J'aime la démocratie, non. Je suis comme Julien Cellier, notre présentateur de RTL Soir. Qui aime, qui n'est pas un dictateur, qui dit oui, vive la démocratie. Damien Béchiot, notre réalisateur. Olivier, doit-il continuer la page Facebook ?
Non.
Ah, donc là, après cet échec, on a trouvé le nouveau jingle pour notre monsieur Boubouk.
RTL.
Le loser de la semaine.
Quand même, Damien Béchiot, une réaction, Pascal, à l'annonce de ce résultat très démocratique.
Wolfried ce soir.
Ah, non, ça c'était une
Moi,
autre
j'ai
réaction.
Pleuré.
Ah, vous avez pleuré. Puis c'est toujours l'heure de déjeuner. Une idée avec Benoît ?
frites ce soir, donc faut nettoyer les moules.
Ah oui, vous avez acheté des moules ce matin?
Oui.
Et c'est long de nettoyer les moules?
Ah oui, il faut retirer la coquille, tout ce qui est gratté, il faut les gratter, oui.
Oh, ça m'a l'air appétissant tout ça. Il paraît même qu'il y a des huîtres. Essayez de négocier une invitation, Pascal.
Je peux venir?
Ah si Pascal, vous voulez, on a, pour 5 personnes, on prend 8 kilos d'huîtres.
À quelle heure on dîne?
Oh, vers 20h.
Bah parce que, et vous habitez où?
Chivreval, dans l'Aisne.
Bah moi, je attendais avec Damien Béchiot. C'est moi le vendredi soir, je travaille pas.
Laurent aussi, Olivier. Ah,
oui, on peut venir avec des amis ou pas?
Ah oui, bah, je vais en chercher encore. Il y en a plein dans la
casa. Eh bien, c'est bien noté. Allez, une dernière info essentielle d'ici demain.
C'est le week-end.
Mais oui, merci pour cette actualité de dernière minute. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte forcément avec des pensées pour Bébel.
Merci Laurent, c'était un plaisir et on va poursuivre d'une certaine manière l'actualité Belmondo avec l'ami Jean-Alphonse Richard.
C'est la musique du cerveau.
A tout de suite et à lundi.